Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même. Émission à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, le yoga tend à gagner un public large. L'engouement pour les médecines douces et une façon de vivre plus posée, destinée à limiter le stress et ses effets pervers, a permis de redonner au yoga ses lettres de noblesse. Né en Inde il y a environ 5000 ans, le yoga repose sur divers principes visant à développer harmonieusement le corps afin de rendre l'esprit plus léger et l'âme sereine. Ce n'est ni un sport, ni une gymnastique, ni une religion, mais il pourrait paradoxalement être considéré comme un ensemble de tout cela. Le yoga est en réalité un état d'esprit selon lequel l'esprit sain et le corps sain vont de pair. Une première émission sur ce sujet a eu lieu le 6 de ce mois. Vous pourrez l'écouter sur notre site. Et en ce mercredi, j'accueille de nouveau André Riel, spécialiste du Nidra Yoga, qu'il a étudié pendant plus de 20 ans auprès de, alors je vais essayer de bien prononcer, Kashmiri Babu, un des détenteurs de cette ancienne tradition. André transmet cette démarche depuis 1998 à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie. Est-ce que mon introduction est correcte, André ?
Oui, c'est correct, mais il y a quelques petites choses à revoir.
Dites-moi, alors gros, allons-y, décortiquons.
Ben, la première chose, mais les auditeurs ne le voient pas parce qu'ils ne font que nous entendre, lorsque l'on dit il y a un corps sain et un esprit sain, ce que l'on oublie, c'est que ça s'écrit avec un T à la fin.
Ah.
Ah.
Ah ah. Oui. Oui, moi, je n'avais pas écrit comme ça, évidemment. Donc, vous faites bien. Donnez-nous votre version.
C'est-à-dire cette affirmation qu'il y a chez l'être humain une qualité sacré, il y a une dimension sacrée chez l'être humain, et que cette dimension, cette qualité sacrée n'est pas du tout reliée à ce que l'on pourrait appeler ici la religion, mais c'est plutôt un état religieux, au sens étymologique, hein, c'est-à-dire religieux veut dire ce qui relie, et le mot yoga veut dire aussi ce qui relie, enfin la pratique c'est ce qui relie, et le mot yoga veut dire aussi l'état de liaison. Et ce qui est un peu dommage dans notre culture depuis longtemps déjà, c'est que l'on a évacué cette dimension sacrée de la vie. Et ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment quelque chose de très ordinaire. C'est un aspect de notre vie qui est essentiellement le fait de se sentir vivant en relation avec le restant du monde. Et c'est en ça qu'on parle de sacré, donc l'état saint, avec un T à la fin, dans une matière corporelle, elle aussi, on pourrait dire sanctifiée, sainte. C'est lorsque est perçu par moments ce rapport de non-fragmentation, de non-dissociation avec le restant du monde. Alors c'est une démarche, c'est cette quête de la dimension sacrée de la vie. Ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années en Europe, c'est que un aspect, une pratique du yoga qui s'appuyait sur les exercices corporels s'est développée. On ne sait pas pourquoi ça a pris autant de place. Peut-être parce que le rapport au corps en Europe en général était plutôt étroit. Hein. Le rapport au corps, c'était essentiellement le travail ou la sexualité. Et vous savez, il n'y a encore pas très longtemps, les gens portaient des vêtements qui les enfermaient, qui les empêchaient de respirer, les femmes beaucoup à cause de la mode. Donc peut-être bien que c'est à cause de ça que l'essor du yoga corporel s'est développé. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que comme le yoga corporel a des effets secondaires rapides, on s'est surtout intéressé aux effets secondaires, c'est-à-dire ça amène un peu de détente, ça permet un peu mieux de dormir, ça soulage un peu les premières douleurs articulaires et musculaires. On s'est surtout intéressé à ça parce que ce sont des effets immédiats. Mais le fondement de l'enseignement n'est absolument pas là. Et la pratique corporelle était, il y a 30 ans, de très très loin, ce qui était le moins répandu en Inde. Ça se pratiquait très très peu. Et l'Occident en général s'y est beaucoup intéressé, encore une fois parce que les effets secondaires sont très rapides. Et on assiste aujourd'hui au retour du phénomène en Inde, c'est-à-dire que ce yoga très, on pourrait presque l'appeler matérialiste, est en train d'envahir l'Inde aussi.
Donc c'est quand même un peu surprenant. L'Inde moderne, on va dire.
Oui, parce que l'Inde traditionnelle, pour le moment, n'est pas trop touchée, mais ça commence à être influencé.
Oui. Et donc, vous vous attachez quand même à défendre, à perpétuer le Nidra Yoga, qui est donc tout, enfin, qui est complètement, enfin, je veux dire, l'opposé, enfin, qui n'est pas du tout, en tout cas, dans le même état d'esprit.
C'est pas à l'opposé, c'est simplement qu'on insiste énormément sur ce que je viens de dire, en annonçant que une simple pratique, parce que le nidra est essentiellement dans de la relaxation et de la concentration, la simple relaxation ou la concentration ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens apprennent à se concentrer pour être plus compétitifs. Ou bien on apprend à se relaxer pour les mêmes raisons. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit précisément d'arrêter ce phénomène compétitif, pas uniquement avec les autres, mais avec soi-même, cette idée que on va devenir meilleur. Et c'est là où les enseignements anciens sont très percutants en annonçant, vous ne pouvez pas devenir meilleur. Vous pouvez découvrir qu'il y a en vous une perfection. En annonçant des choses du genre, il a fallu des millions d'années pour fabriquer des êtres humains comme ils sont aujourd'hui, n'allez pas imaginer qu'en 80 ans d'une vie, vous allez changer quelque chose. La nature a agi et il y a une qualité de perfection. C'est celle-là dont on peut se rapprocher et les démarches de yoga sont pour tenter de se rapprocher, de percevoir qu'il y a cette qualité en soi. Et évidemment, chez les autres aussi. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire nous sommes tous la même perfection naturelle à l'œuvre dans le mouvement de la vie. Et à côté de ça, donc, se sont développés dans beaucoup de yoga moderne. Hein. On en a dénombré l'autre jour là, avec un groupe à Paris, dans les 7 dernières années qui viennent de passer. On a dénombré 32 formes de yoga qui sont apparues. Mais là, on parle de formes, d'exercices. Alors, les enseignements anciens contiennent évidemment des exercices dans un nombre beaucoup plus petit, mais ne s'éloignent pas du fondement de l'enseignement. Les enseignements modernes contiennent des milliers d'exercices. Et s'intéresse essentiellement aux effets secondaires immédiats que peuvent procurer les pratiques, et notamment ces exercices corporels qui consistent à prendre des positions sur un tapis pendant 1 heure, et qui, lorsque la séance est bien menée, amènent de la détente, diminuent le stress, mais il n'y a pas d'enseignement.
Oui.
C'est-à-dire que quand la séance est finie, tout le monde retourne dans la même vie pour refabriquer du stress.
Concernant le Nidra, est-ce qu'on peut parler d'une forme de spiritualité?
Oui, on ne peut parler que de ça. Encore une fois, en entendant bien hein, qu'il s'agit d'une spiritualité laïque, ça n'est absolument pas associé à aucune religion, quelle qu'elle soit. C'est vraiment l'affirmation qu'il y a pas uniquement chez l'être humain, mais chez tous les êtres vivants, cette dimension sacrée, encore une fois sacrée au sens où elle a été produite par des milliards d'années de vie, et que c'est le mouvement naturel, et du fait de ne pas le percevoir, nous sommes pris dans une course pour améliorer des compétences auxquelles nous n'accéderons jamais. Parce qu'à chaque fois qu'on va accéder à une nouvelle compétence, on va vouloir en découvrir une autre. Et aujourd'hui, nous sommes dépassés. Il y a des appareils qui ont plus de compétences que les êtres humains, les ordinateurs de dernière génération.
Vous êtes dans votre émission Itinéraire Santé sur le réseau FM Plus. Et donc, aujourd'hui, nous sommes pour ce deuxième mercredi de ce mois, de nouveau en compagnie de André Riel, avec qui nous découvrons le Nidra Yoga. André, j'aimerais que nous parlions de la méditation qui fait partie intégrante de... Alors, est-ce qu'on peut parler de discipline ?
C'est une question qui existe depuis plusieurs milliers d'années. Et jusqu'à présent, personne n'a pu donner de réponse suffisamment pertinente pour qu'elle soit définitive. Mais allons-y, abordons quand même la question.
Bon... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que on peut considérer le Nidra comme étant une discipline ?
Ah, le Nidra, oui, est une discipline, oui. C'est une discipline au sens très noble du terme. C'est-à-dire, ça consiste à devenir un disciple, non pas le disciple de quelqu'un ou de quelque chose, mais de rentrer dans un état de disciple, qui est un état... Le disciple, c'est celui qui écoute, qui est attentif, qui perçoit, qui est sensible. Et aussi, c'est celui qui n'accepte rien comme argent comptant, mais qui questionne tout ce qu'il découvre. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une discipline.
D'accord. Alors, j'aimerais aussi que nous parlions de la méditation. Quel est, en quoi consiste ce processus de méditation ? Est-ce que vous pouvez essayer de nous l'expliquer ? Et quels bénéfices en tire-t-on ?
Alors, c'est une grande question parce que ce qui est répandu aujourd'hui sous le terme de méditation est quasiment toujours que de la concentration. C'est-à-dire, ça consiste à mobiliser sa pensée ou à focaliser sa pensée sur quelque chose. Ça peut être un objet extérieur, ça peut être une région de son corps, ça peut être une pensée, ça peut être une émotion, mais ça a ce sens de focalisation, de concentration. Ce qui est appelé méditation n'est pas du tout le cas. Et c'est un terme que je n'emploie plus, parce que ça crée beaucoup de confusion. J'ai choisi d'employer l'expression l'état méditatif, qui est un état dans lequel, encore une fois, la pensée est très paisible et silencieuse, et il y a une sorte de nouvelle faculté sensible de perception qui surgit et qui perçoit infiniment. Et cet état de perception enclenche, on n'a pas de terme en français, des flashs de compréhension immédiats dans lesquels subitement des questions qui nous travaillent tout d'un coup semblent trouver non pas une réponse intellectuelle, mais semblent déclencher un état où l'on a la réponse ou l'attitude qui convient face à cette question. On pourrait appeler ça un état d'intuition très élevé. Et ce qui est nommé, encore une fois, donc la méditation, c'est souvent des exercices de concentration. Et là, donc, il y en a une multitude, et toutes les écoles proposent des exercices différents. Mais on confond souvent, hein, l'exercice de concentration avec l'état méditatif. On pourrait dire comme ça, la concentration, c'est lorsque la pensée fait un effort soutenu et maintenu dans la durée sur un support, quel qu'il soit. Et l'état méditatif est un état où il n'y a pas d'effort. Et il y a une perception un peu à l'infini, un peu sans limite, c'est-à-dire on ne choisit pas ce que l'on perçoit. Maintenant, comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre? Alors là, il y a toute une pédagogie où on développe de la concentration, parce que pour la majorité des gens, se concentrer est très difficile. Hein, la pensée est souvent très très dispersée. Donc on diminue la dispersion. On commence à enseigner des méthodes qui permettent de rester une minute concentré, c'est déjà beaucoup.
Alors, excusez-moi, je vous interromps, parce qu'à ce niveau-là, la respiration est primordiale, j'imagine,
Il y a des méthodes qui
pour
l'utilisent.
accéder à cet état méditatif.
Il y a des méthodes qui utilisent la respiration, d'autres non. Ce qui nous intéresse, c'est de mobiliser la pensée de façon à ce qu'elle ne soit pas dispersée. Et lorsqu'elle peut se maintenir de façon stable, concentrée, de diminuer l'effort de concentration sans qu'il y ait dispersion. Et parfois, dans cette tentative de diminuer l'effort, tout effort disparaît. Et dans cet état de présence, il n'y a plus d'effort. Il y a juste quelque chose qui paraît très mystérieux. C'est comme si ça se maintenait de soi-même, ça. Comme si ça n'avait plus besoin que l'on fasse un effort, ni mental ni physique. Et ça, c'est toute une méthodologie qui est relativement précise. Mais assez souvent, l'enseignement s'arrête aux premiers échelons, au premier niveau, qui consiste juste à se concentrer.
Durge ambabhavani jai jai Durge ambabhavani
Durge ambabhavani jai jai Durge ambabhavani
Durge ambabhavani jai jai Durge ambabhavani
Durge Amba Bhavani, Jai Jai Durge Amba Bhavani.
Sankata Harini Mangalakarini,
Sankata Harini Mangalakarini.
Pranava Svarupini Mata Jai Jai,
Pranava Svarupini Mata Jai Jai.
Durge Amba Bhavani, Jai Jai Durge Amba Bhavani.
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 Sankata Harini Mangalakarini,
Sankata Harini Mangalakarini.
Pranava Svarupini Mata Jai Jai,
Pranava Svarupini Mata Jai Jai.
Durge Amba Bhavani Jai Jai Durge Amba Bhavani.
Vous êtes sur le réseau FM+, et donc là nous entendions un extrait du CD de mantra, Mantra Shadana. Donc ce sont des chants sanskrit vocal pur que André Riel a composé, c'est ça André?
Bien composé, non, ça a été enregistré, c'est composé depuis des siècles.
Oui, mais enfin que vous avez, oh oui, mais là vous me titillez hein, André.
Ah ben... Je les chante à ma façon. Alors,
ouais. C'est une adaptation.
Allez.
Allez, voilà, on y va pour l'adaptation. André, le Nidra Yoga, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Moi, je dirais donc qu'il permet d'élargir sa conscience et de développer ses potentialités latentes en cultivant des zones de notre cerveau, généralement en friche, qu'il rééduque le sommeil et représente un pont vers l'éveil, si on veut résumer un peu. Est-ce que c'est ma définition est bonne ou pas?
Ben, vous avez gagné.
Oh, là, je suis contente. C'est vrai?
Oui.
Vous êtes d'accord sur tout? Ah, ben alors là, donc, moi aussi, je suis contente, du coup. André Riel, donnez-vous des cours ou organisez-vous des séminaires à Montpellier? Parce que les Montpelliérains, évidemment, sont tout ouïes, mais nous sommes écoutés aussi à Nîmes, donc dans la région, on va dire.
Oui, oui, il y a des enseignements à Montpellier le mercredi soir dans l'Écusson, dans un centre qui s'appelle Nada Bindu, qui a été monté par un élève, Alex Novakovic, qui est lui-même un enseignant de yoga et qui est aussi un... C'est un homme magnifique, il faut aller suivre des cours avec lui.
On est d'accord. Je n'ai pas suivi les cours avec lui, mais je le connais de longue date et c'est vrai que c'est une très 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 belle personne. Ouais. Alors on va donner son site internet, Nada Bin du Yoga, en un seul mot en minuscule, non?
Nada Bindu. Nada Bindu, on dirait
alors,
en français.
Voilà, alors Nada Bindu, voilà, yoga.wordpress.com, voilà. Et donc sinon, son école Nada Bindu se situe 13 rue de la Verrerie, c'est tout à côté de la rue d'Université.
C'est ça, c'est hein? À 3 minutes la rue d'Université.
Voilà, donc... Les adeptes ont la chance de vous avoir chaque semaine, quand vous n'êtes pas en voyage.
Elles ont beaucoup de chance, oui.
très rapidement, comment ça se passe concrètement, une séance? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a différents niveaux? Combien ça coûte aussi? Enfin voilà, essayez de tout nous dire en quelques minutes.
Alors, ça se passe de la façon suivante. Il y a trois temps. Il y a un temps... où l'on plonge, on essaie de percevoir un des éléments importants de notre vie, le sens. Par exemple, la séance d'hier était « C'est quoi le don de soi ?» ou bien « C'est quoi l'authenticité ?» C'est quoi la non-violence ? Et puis, c'est suivi, alors on décortique un peu, et puis, c'est suivi par un exercice, donc on appelle ça Sitilikarana, où les gens sont allongés et on essaie de retrouver le ressenti de ce dont on vient de parler. Il ne s'agit pas que ce soit exclusivement intellectuel. Donc on met d'abord le corps en état de sensibilité par des exercices de relaxation. Ensuite, on essaie de pénétrer dans le sens sensible du thème dont on vient de parler. Et puis, il y a un troisième temps où les gens sont assis, cette fois-ci, en essayant de développer par la concentration une puissance plus grande encore de cette sensibilité sur ce thème-là. Alors ça, ce sont des séances de base qui sont ouvertes à tout le monde. Ça dure 2 heures. Je ne sais pas vous dire ce que ça coûte, parce que je m'en occupe pas.
Eh bien, moi, je vais vous le dire. André.
Ah, je vais pouvoir enfin en profiter.
Vous saurez. Alors, c'est entre 50 et 60 euros pour 5 cours. Et il y a une adhésion de 20 euros par an.
Ah, d'accord.
Voilà.
Bon, mais je crois que je vais y aller.
Mais je vous le conseille, André. Je pense que ça vous fera du bien.
Maintenant, à côté de ces séances de base, après, il y a des enseignements beaucoup plus approfondis. Mais ceux-là n'ont pas lieu à Montpellier. Ils ont lieu près d'Avignon, à une quinzaine de kilomètres au sud d'Avignon, où on a créé un petit centre qui s'appelle Somapa. Et dans lequel, là, il y a des journées, des week-ends, des semaines, parfois des programmes qui durent 10 jours aussi, où là, on rentre vraiment dans la profondeur. Mais ce qui se passe à Montpellier, c'est une introduction.
Vous donnez aussi des cours de mantra ?
Oui, je donne aussi des cours de chant sanskrit, mais de mantra.
Alors, quand peut-on profiter de ces cours ou...
Ben, en écoutant la radio. les enseignements se déroulent d'une façon un peu différente, hein, c'est-à-dire que les enseignements n'ont lieu que lorsque quelqu'un demande à ce que ça ait lieu et qu'il les organise. Je n'organise rien moi-même. Et donc là, je crois bien que le prochain, c'est à Rouen, je crois. Et de temps en temps, oui, c'est vrai, de temps en temps, il y a des journées qui ont lieu dans cet endroit au sud d'Avignon, qui sont gratuites. Enfin, c'est sur donation libre.
D'accord, d'accord. Alors, André, la plupart des pratiquants de yoga adaptent leur mode de vie, et notamment du point de vue de l'alimentation, c'est exact ?
Alors, là encore, à cause de ce yoga corporel qui s'est répandu depuis une trentaine d'années, là, il y a dans les écrits du yoga corporel, il y a 4 grands textes qui ont plusieurs siècles, des recommandations alimentaires. Et à cause de cette forme d'enseignement corporel qui s'est répandu, beaucoup de gens qui se sont mis à faire du yoga ont modifié leur alimentation en mangeant moins de produits carnés et en recherchant une alimentation également la plus biologique possible, de façon à avoir le corps moins pollué, parce que c'est une pratique corporelle.
Et vous, votre sentiment donc là-dessus ?
Maintenant, il y a d'autres formes d'enseignement du yoga qui mettent beaucoup moins l'accent sur ce type d'alimentation-là. Ben, mon sentiment, c'est que il faut suggérer aux personnes de faire des expériences. Simplement, il faut que l'expérience prenne un peu de temps, qu'elle dure un peu, et de voir si en modifiant leur alimentation, ça modifie leur ressenti de toute la journée. Maintenant, nous savons très bien, parce qu'on est de plus en plus au courant de ça, que ce qui se passe dans les abattoirs, c'est un véritable scandale. On assassine les animaux, on les massacre, en veux-tu, en voilà. Et du point de vue du yoga, la terreur que l'on développe avant l'assassinat de ces animaux déclenche chez eux des décharges d'acide considérables et des décharges d'hormones considérables que nous absorbons lorsque nous mangeons cette viande-là et qui est très malsain. Tous ces produits chimiques qui sont produits par la peur. Et c'est très connu aujourd'hui, hein, que également l'alimentation végétale est bourrée de produits chimiques qui, que les autorités le reconnaissent ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde sait que il vaut mieux ne pas consommer de produits pollués par l'agriculture chimique, et donc de se retourner vers une alimentation plus saine. Et il est évident, à chaque fois que l'on en parle à quelqu'un qui a modifié son alimentation, il est évident que les gens se sentent mieux, quel que soit l'avis des autorités.
André Riel, un grand, grand merci. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Donc, votre site internet, oui.
Je vous remercie aussi.
Votre site internet, nidrayoga.wordpress.com. Vous aurez toutes les informations, tout est hyper bien développé. Vous aurez aussi les connexions pour pouvoir acheter vos différents CD, etc.
Ah oui.
Voilà. Et donc, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent écouter la première émission qui a eu lieu donc le mercredi 6 avril sur fmplus.org, sur notre site internet. Merci à Stéphane qui était à la technique aujourd'hui et merci à vous chers auditeurs. Au revoir.
Merci Annick, merci. À bientôt.